donc nous continuons notre étude dans l'Épître aux Romains, mais on fait un grand changement aujourd'hui, tournant dans l'histoire, ok? Donc, dans Romains, le premier 11 chapitres, dans l'Épître aux Romains, Paul a posé la fondation de la foi en Jésus-Christ comme étant le moyen, l'unique moyen par lequel Dieu justifie les pécheurs. Il n'y a de salut en aucun autre, sinon Jésus-Christ. Si vous enlevez Jésus-Christ, vous n'avez aucun salut. Il n'y a aucune religion qui vraiment propose un salut certain. Il n'y a que Jésus. Okay? Donc, il pose cette fondation, l'Évangile, et puis comme j'ai fait pendant 3-4 semaines, il faut croire dans l'Évangile pour être sauvé. Et à la fin du chapitre 11, il y a cette louange à Dieu pour sa sagesse, pour sa sagesse et sa justice, pour avoir créé l'Évangile et le mis en œuvre. Et puis maintenant, on entre dans le chapitre 12. Et à partir du chapitre 12, Paul va parler, non pas de se convertir, mais de la vie des chrétiens. Il parle à ceux qui se sont convertis à Jésus-Christ et comment mettre en œuvre notre foi. Dieu nous a sauvés, non pas seulement pour sa gloire éternelle, mais aussi pour notre utilité actuelle dans le royaume de Dieu. Donc, la vie du disciple, hein, parce qu'on veut être disciple de Jésus-Christ, donc la vie du disciple est possible seulement pour ceux qui ont reçu la nouvelle naissance grâce à leur confiance en Jésus-Christ. Un non-chrétien ne peut pas être un chrétien. Ce n'est pas possible. Il faut croire en Jésus-Christ. Dieu donne son Saint-Esprit qui nous permet d'être vraiment un chrétien. C'est par cette nouvelle naissance que Dieu, qui habite en nous par son Saint-Esprit, il ouvre des grandes possibilités pour notre vie. Avant, il n'y avait rien. Mais maintenant, avoir cru en Jésus-Christ, il y a des grandes possibilités. Parce que croire en Jésus-Christ est véritablement une conversion. Et cette conversion est plus évidente chez les uns que chez les autres. Mais dans tous les cas, la conversion donne suite par les changements de vie et de comportement. Je vais lire 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 et 18, le début du verset 18. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Donc, je vais arrêter la lecture là. Donc maintenant, à partir de Romains chapitre 12, Paul va dire que la véritable vie chrétienne est intentionnelle. Elle n'est ni automatique, ni au hasard, ni aléatoire. Nous sommes tous dans notre corps humain, on a parlé de ça dans Romains chapitre 7, dans un monde physique, entouré de nos semblables qui vivent, eux, selon les principes humains de l'époque, notre époque du 21e siècle. Dans le domaine spirituel, le prince de ce monde, le prince de la puissance de l'air, il agit dans les fils de la rébellion pour les distraire du Dieu créateur. Et il agit autour de nous pour nous distraire aussi. Jean, l'apôtre, dit aux croyants, « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Et Pierre dit aux croyants, « Conduisez-vous avec crainte. » Ce mot veut dire aussi « révérence » ou « respect. » « Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Donc ça veut dire notre séjour ici-bas, parce que plus tard on sera dans le pays céleste, n'est-ce pas? Donc on est pèlerin. On est étranger, même si on n'est pas réfugié, on est étranger ici-bas. Comment peut-on réussir la vie chrétienne? Comment peut-on devenir un véritable disciple de Jésus-Christ? Je vous explique le point de départ ici dans Romains chapitre 12 et le verset 1. Globalement, ça veut dire, ce qu'on va dire, veut dire, ça revient à votre attitude. C'est une question, point de départ, c'est l'attitude. Il faut vouloir vivre la vie spirituelle chrétienne. C'est le point de départ. Romains chapitre 12 et verset 1. Je vous exhorte donc, frères, donc il parle aux croyants, il ne parle pas aux croyants. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc je vais dire que ce mot culte, nous, dans notre vocabulaire protestant évangélique, on dit voilà le culte. On ne dit pas la messe, on dit le culte. Mais bibliquement, le culte, c'est votre vie. Et nous qui avons une vie chrétienne, on se réunit le dimanche. Donc c'est la réunion ou l'assemblée où nous sommes. Nous nous réunissons pour notre communion fraternelle le dimanche. Et ce n'est pas un culte. Mais on dit le culte. OK, d'accord. Mais vraiment, le culte, c'est votre vie de tous les jours. Okay? Si vous êtes, vous vivez comme le diable toute la semaine et vous êtes ici dimanche, ce n'est pas un culte. Okay? Le culte, c'est dans tous les jours. Et nous qui faisons le culte à Dieu, nous nous réunissons le dimanche. Donc on va regarder donc le vocabulaire dans ce verset. Je vous exhorte. Donc, je vous exhorte, c'est pas je vous commande. C'est une exhortation, c'est un conseil, c'est un encouragement, donc, frère, par les compassions de Dieu. Et donc, ce mot, ça veut dire la pitié, la faveur, la grâce, la miséricorde. Donc, dans le contexte, il parle de l'Évangile. On vient de passer 11 chapitres sur l'Évangile, le fait de croire en Jésus-Christ, on a loué Dieu, et maintenant il dit, sur cette base-là, je vous exhorte, frères, par ces compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir, le mot offrir veut dire présenter, exposer, céder vos corps. Donc votre corps, c'est votre personne, c'est votre être, c'est votre vie. Comme un sacrifice vivant, saint, pas sale, agréable à Dieu. On a chanté tout à l'heure, non, jamais tout seul. Donc, vous allez dans le bar pour boire quelque chose, ben, Jésus est là avec vous. Vous allez à l'église, Jésus est avec vous. Vous allez, je ne sais pas, battre votre femme, Jésus est là avec vous, il ne sera pas content. La Bible dit de ne pas... attrister le Saint-Esprit qui habite en vous. Ça, c'est par nos péchés. On attriste Dieu parce qu'il est là, toujours. Okay? Donc, on présente notre corps, notre vie, comme un sacrifice vivant, saint, mis à part à Dieu, et agréable. Ce qui sera, de votre part, voilà le mot, un culte. Le mot culte veut dire service. Service rendu à Dieu. Si vous rendez votre vie à Dieu, si vous donnez votre vie à Dieu, vous le cédez à Dieu, c'est un culte, c'est un service que vous rendez à Dieu. Il dit qu'il est raisonnable. Et le mot raisonnable, ça veut dire rationnel ou logique. C'est bien raisonné. Okay? L'exhortation ou le conseil dans ce verset, c'est de vivre la suite logique de votre salut. Louez Dieu par votre vie toute entière. Ce n'est pas que le dimanche. C'est votre vie toute entière. Bien qu'il soit possible, malheureusement, pour un chrétien né de nouveau, de continuer à pratiquer son ancienne vie, donc celle qui menait à la perdition avant de croire en Jésus-Christ qui l'a sauvé. Donc c'est possible, oui, de continuer une telle vie. Ce ne serait pas cependant une vie utile ou sensée. Et ce ne serait pas raisonnable. Ce ne serait pas bien réfléchi. Maintenant que vous avez cru en Jésus-Christ, il est raisonnable que vous viviez votre nouvelle vie pour Dieu. Mais attention, Dieu ne nous force pas de l'aimer. Il ne nous oblige pas de l'aimer. Il nous exhorte, il nous encourage, il nous conseille de prendre de bonnes décisions. Quand on dit raisonnable ou logique ou rationnel, ceci invoque l'idée de réfléchir. Et sur la base de ces raisonnements, nous devons agir selon notre propre volonté. On doit mettre en pratique notre propre choix. Okay? Aimer Dieu, est un choix personnel. Aimer, c'est un choix. Vous pouvez céder votre avenir à Dieu. Vous pouvez ne pas céder votre avenir à Dieu. Vous pouvez offrir à Dieu votre personne afin de servir selon sa volonté. Vous devez le faire, car c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, c'est votre choix. Quelqu'un dira, ça va demander de grands sacrifices de ma part. Eh bien oui, Dieu dit que la vie chrétienne est un sacrifice. Quelqu'un dira, j'ai beaucoup de choses à faire. Ou il dira, je dois gagner de l'argent. Ou je dois préparer mon métier. Certainement, ça c'est vrai. Nous avons tous plein de choses à faire. Ainsi, il faut organiser les sujets par priorité. Certaines personnes vont même dire, je ne veux pas donner ma vie à Dieu. Cette dernière pensée, c'est vraiment de la rébellion. C'est comme les non-croyants qui ne connaissent pas Dieu. Donc on a entendu je. Hein, vous constatez, c'est vraiment le moi, c'est le moi, c'est le je qui est au centre de toutes ces idées-là. De tels discours ne sont pas logiques. Et c'est Paul qui le dit. Certes, vous pouvez vivre pour vous-même. Depuis votre salut en Jésus, vous pouvez vivre pour vous-même. C'est naturel. Mais par l'Évangile, Dieu vous a appelé à une vie surnaturelle. Dieu ne veut plus que vous soyez naturel, mais que vous vivez une vie spirituelle, surnaturelle. La vraie question est celle-ci. Qui va régner sur votre vie? Jésus, votre sauveur, ou toi-même? Rappelez-vous les mots de Jésus. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Frères et sœurs, Dieu sait que vous avez besoin de certaines choses et que vous avez des décisions à prendre. Il n'est pas insensible à vos besoins. Mais c'est pour cela même que vous devez céder votre vie à Dieu avant de prendre toutes ces décisions. Là, c'est raisonnable. Ça, c'est logique. Laissez le volant à Dieu, car Dieu peut vous aider et vous bénir dans tous ces domaines. Mais si vous excluez Dieu de votre vie, tout en étant chrétien, mais si vous excluez Dieu de votre vie, de vos décisions, étant vous-même au volant de votre vie, toutes ces choses risquent de restreindre votre vie avec Dieu et de gâcher votre avenir. Vous vous rappelez la parabole du semeur que Jésus enseignait dans Marc 4. Il y a à la fin, il dit, « Les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole, la parole semée, la parole de Dieu, et la rendent infructueuse. On ne veut pas ce témoignage de notre vie. Dieu veut vous bénir. Il veut vous rendre fructueux. C'est à vous de choisir comment votre vie va se dérouler. Ici dans Romains chapitre 12, verset 1, Paul explique la première étape pour réussir votre vie de chrétien. Ayez une bonne attitude. Ayez une optique de vie spirituel. Dieu vous a sauvé pour être utile, pour le servir. Vous êtes important et utile pour le royaume de Dieu. Je vais répéter. Vous êtes important. Pour Dieu, vous êtes important. Chaque croyant est important. Il nous a donné les talents, les dons, etc. Et vous êtes utile pour le royaume de Dieu. Pourvu que Dieu est au volant. Lors de votre baptême, n'avez-vous pas déclaré vouloir vivre une vie chrétienne? Certainement. Juste après la parabole du semeur, Jésus demande, donc quelques versets plus tard, dans Marc chapitre 4, verset 21, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? » Premièrement, mettre votre bougie sous le lit, etc., c'est contradictoire si vous allez cacher, pourquoi l'allumer. Mais aussi, c'est un peu dangereux hein, de le mettre sous le lit, n'est-ce pas? C'est ici que nous comprenons la nuance exposée dans le mot « offrir ou céder hein, » dans ce verset. « Présenter ma vie à Dieu pour lui plaire et le servir » c'est de m'exposer comme une lampe dans la nuit. Car dans la nuit, une lumière est bien évidente. On dit, ah, voilà un chrétien. Nous sommes des lampes au milieu des ténèbres. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 5, dans le verset 14 et aussi dans le verset 16, « Vous êtes la lumière du monde. » Verset 16, « Que votre lumière luise. » ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus aussi dit une chose un peu semblable dans Matthieu chapitre 10 et verset 16. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Hein, donc une lampe dans la nuit, une brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Regardons maintenant dans le verset 2. Romains chapitre 12 et verset 2. Ce verset 2 présente la seconde étape pour réussir la vie chrétienne. Reconnaître la distinction entre vous en tant que chrétien et le monde qui vous entoure. Paul dit, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On va regarder rapidement le vocabulaire. « Ne vous conformez pas. Ne vous conformez pas aux mêmes tendances de ce monde. Faut pas vous modeler après le monde de l'époque. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ce siècle, donc, ça veut dire l'âge présent en opposition à l'âge à venir, un âge futur. Donc que ça soit le millénium ou l'état éternel. Mais soyez transformés, donc c'est le mot métamorphosés. Soyez métamorphosés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez changés ou transfigurés par le renouvellement, par un renouveau, par un changement dans votre intelligence. Et ce mot intelligence, c'est un mot qui veut dire l'esprit, la raison, la compréhension, la faculté de raisonnement ou l'intellect. Donc vous comprenez, la pensée doit changer avant que le comportement puisse changer. La repentance est ici, on change la pensée et puis on agit autrement. C'est pour cela que Jean-Baptiste a dit, il faut apporter les fruits dignes de la repentance. Les gens qui n'avaient pas le changement, n'avaient pas eu un changement de pensée. Ils n'avaient pas le changement de comportement. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu le changement de pensée. Okay? Donc ça commence dans l'intelligence. Il dit, afin que vous discerniez. Donc discerniez, ça veut dire que vous approuvez par examiner. Okay? Approuvez par examiner. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, c'est le bien. Donc, c'est ce qui est conforme à la personne, au caractère de Dieu. Agréable, c'est la même chose que l'autre verset. Et parfait, donc parfait, c'est ce qui atteint sa fin ou qui arrive à un stade complet ou est devenu adulte. OK? Ce qui est parfait. Donc, on voit les deux bases de réussir une vie chrétienne. Ils sont indispensables. Il faut avoir une bonne attitude, de vouloir vivre sur le niveau spirituel chrétien. Et puis, il faut distinguer ce qui se passe autour de moi. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Je suis chrétien dans le monde. Avec notre bonne attitude, de vouloir plaire à Dieu, nous devons aussi reconnaître que le monde est en opposition avec Dieu. Jésus dit dans Jean 8, 12, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit. » Donc, ici, Jésus dit « Je suis la lumière du monde. » Et en Matthieu, il dit « Vous êtes la lumière du monde. Okay? »« Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de vie. » C'est-à-dire qu'on en a cru en Jésus-Christ, la lumière est entrée en nous par le Saint-Esprit, et nous sommes devenus la lumière dans les ténèbres. Dans Galates chapitre 5 et verset 16, Paul dit concernant notre comportement dans ce monde, il dit, « Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Avant de se convertir à Jésus, nous étions tous du monde. Notre conversion à Jésus a changé notre relation avec le monde. Avant, nous étions du monde, mais maintenant, nous sommes seulement dans le monde, pendant notre séjour. Dieu veut que nous ne nous conformions plus au monde. Pour faire cela, le Saint-Esprit a inspiré le Nouveau Testament afin de nous apprendre le chemin de Jésus. Donc, Romains chapitre 12, verset 2 dit que Dieu peut transformer votre vie par le changement de vos pensées à travers la Bible et l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas n'importe quel changement. Okay? Ce n'est pas, ben voilà, avant j'ai porté les vêtements noirs, maintenant je vais porter les vêtements bleus. Voilà un changement. On parle des changements qui s'adaptent à la personne de Dieu. Okay? Quand on parle dans la Bible de repentance et changement, c'est toujours envers Dieu. Ce n'est pas simplement les questions de changer le mode, de façon de se vêtir, de manger, etc. Avant, j'étais végétarien, maintenant, je suis carnivore. Ce n'est pas ces questions-là. Okay? C'est se conformer à la volonté de Dieu. Et on connaît la volonté de Dieu seulement par la parole de Dieu. Jésus a parlé longuement sur ce sujet, le soir avant sa crucifixion. Et donc, c'était dans son discours sur le Saint-Esprit. Par exemple, donc je ne donne pas tout, mais simplement un petit peu, dans Jean chapitre 17, verset 14 à 18. Jean chapitre 17, verset 14 à 18. Là, nous lisons, verset 14, « Je leur ai donné ta parole. » Il va donner aux croyants, en particulier, il a donné aux apôtres, aux disciples, mais plus tard il dit c'est pour tous qui vont croire plus tard, ça c'est nous. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. On ne peut pas séparer la volonté de Dieu de la parole de Dieu. Nous connaissons la personne, le caractère, la volonté de Dieu, toutes ces choses par la parole, et le Saint-Esprit utilise sa parole pour nous apprendre ce que Dieu veut. Donc le renouvellement dont Paul parle ici au verset 2 n'est pas instantané. Le Seigneur va agir dans nos pensées toute notre vie. Tout au long de notre vie chrétienne, nous sommes sur le chemin de changement, changement de pensée afin d'adopter les pensées de Dieu. Donc, toute notre vie, ça va continuer. Parce qu'il y a toujours quelque chose de nouvel à apprendre. Quand vous êtes confronté aux impulsions de votre humanité, aux séductions du monde, ou aux embêtements du diable, tenez ferme, résistez, gardez la bonne attitude de vouloir servir Dieu et de lui plaire. C'est le premier étape, bien sûr. Puis, il faut distinguer entre le monde et la volonté de Dieu. Puis, il faut choisir de rester sur le côté du Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 13 et le début du verset 14, on lit « Prenez tous les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Hein? » Dieu veut qu'on soit debout. Il nous a donné tous les armes pour réussir la vie chrétienne. Par sa parole, le Saint-Esprit va vous équiper pour le mauvais jour. Le mauvais jour vient toujours. On peut être bien, et puis un jour, c'est le mauvais jour. Il faut être prêt pour ce jour-là, ou pour ces jours-là. Le mauvais jour, quand la chair, le monde ou le diable vous attaquent. Je vais résumer rapidement le message. Donc, on a dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2, on a donc Paul qui nous donne la base nécessaire, donc c'est la base indispensable pour réussir la vie chrétienne. Il y a 8 pensées. Premièrement, dans le verset 1, au lieu de nous commander, Dieu nous exhorte, il nous encourage à avoir la bonne attitude. Sur la base des compassions de Dieu, c'est-à-dire sur la base de l'Évangile, de notre salut, Dieu nous demande de réfléchir sur notre avenir, parce qu'on a un avenir. Il nous dit que c'est logique et raisonnable d'offrir nos vies pour le service de Dieu. Il n'a pas dit quel service. Hein? Il y a plein de choses, plein de talents, plein de temps. Mais la question, est-ce que je suis disponible? Oui, Seigneur, je veux te servir. Après, c'est Dieu qui vous dit comment vous allez le servir. Puis au verset 2, Dieu nous invite à une transformation de vie. Ceci commence dans nos pensées sur la base de la parole de Dieu. Puis il nous dit de ne plus rester sur le chemin du monde, mais de devenir un témoin lumineux pour la vérité. Le septième point, pour en arriver là, il faut reconnaître la différence entre le monde et le royaume.